Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, il n'y aura aucune impunité, a tranché la présidente du Parlement européen un mois après le scandale de corruption du Qatargate. Obligation de déclarer ses rendez-vous, interdiction de lobbying après la fin du mandat figurent en haut de la liste des prochaines mesures pour encadrer le travail des 705 eurodéputés. Et ce, alors que 4 personnes, dont une des vice-présidentes de la Chambre, la grecque Eva Kaili, sont toujours sous les verrous. Une arrestation qui a créé la sidération en Grèce, où la justice peine à condamner les délits de corruption, mais où 98% des citoyens estiment que c'est un fléau très répandu dans leur pays. À Athènes, le reportage de Joël Bronner.
His vice-president Eva Kaili.
Fin décembre à Bruxelles, face au micro de la presse internationale, l'avocat grec d'Eva Kaili défend la vice-présidente déchue du Parlement européen. Quelques mots en anglais et quelques mots aussi dans un français approximatif et hésitant. Michalis Dimitrakopoulos.
Je vais dire à vous que madame Eva Kaili est innocente et jamais a été corrompue. Jamais.
L'avocat n'hésite pas à affirmer que sa cliente, pourtant arrêtée en flagrant délit, est innocente et qu'elle n'a jamais été corrompue. Un « jamais corrompu » en français, qui avec l'accent grec, sonne comme « jamais corrompu », nous avons vécu à Koropi, du nom d'une petite ville près de l'aéroport d'Athènes. Le mot-clé « Koropi jamais » devient ainsi viral sur les réseaux sociaux et s'impose comme la plaisanterie en vogue en fin d'année, avec la chanson qui va avec. Stéphanos Loukopoulos est directeur de Vouli Watch, un organisme né au cœur de la crise économique et qui promeut la transparence au sein du milieu politique en Grèce. Si les Grecs préfèrent rire de l'affaire Kaili, c'est que selon lui, la corruption fait tellement partie de la culture politique du pays qu'elle ne suscite presque plus de réactions scandalisées.
C'est devenu, pour ainsi dire, banal, pour employer un mot français. Je vous donne un exemple. Il y a 3 ans, notre organisation a découvert que Nouvelle Démocratie, le parti au pouvoir, utilisait de l'argent public pour rembourser certains prêts privés du parti. Pour le contexte, le parti doit plus de 300 millions d'euros aux banques. Le Parlement grec était au courant, mais il n'a pas bougé. Il n'a pas imposé la moindre sanction. Et ce phénomène a perduré plus de 3 ans au total, selon les données que nous avons collectées. Donc cette histoire, nous l'avons révélée et il ne s'est rien passé du tout. La plupart des gens ont réagi en disant « Ah oui, évidemment, comme d'habitude ». Et donc cette affaire n'a pas suscité d'étonnement particulier. C'est pourquoi je pense que le plus inquiétant, c'est que les gens acceptent à présent tout ceci comme étant la norme.
Affaire Novartis, affaire Siemens, les scandales d'envergure se succèdent sans que la justice grecque, extrêmement lente et peu efficace, ne condamne au final presque jamais personne. En décembre, peu après l'arrestation d'Eva Kaili à Bruxelles, le quotidien de gauche Efsin ironisait ainsi. Il est assez rare que la corruption en politique soit dénoncée et punie. C'est le malheur de Mme Kaili. Le scandale pour lequel elle fait l'objet d'une enquête se déroule en dehors de la Grèce.
C'est ironique, mais malheureusement, parfois, en Grèce particulièrement, nous manions l'ironie pour masquer notre désespoir. Oui, malheureusement, c'est vrai. Il y a eu ici des affaires similaires impliquant des députés grecs ou bien des ministres qui ont été l'objet d'enquêtes ou accusés d'être mêlés à des scandales. Mais le système judiciaire n'a pas fait grand-chose. Et oui, en conclusion, Eva Kaili n'a pas vraiment eu de chance parce qu'en Grèce, une affaire pareille ne serait, je pense, probablement pas allée bien loin.
D'autres facteurs ont pesé, mais l'importance de la corruption au cœur du monde politique grec est aussi souvent présentée comme l'une des causes à l'origine de la décennie de crise économique en Grèce, lorsque la dette du pays est devenue incontrôlable. Arrivé au pouvoir en 2015, justement à la faveur de cette crise, le premier ministre grec Alexis Tsipras ne dit pas autre chose devant le Parlement européen de Strasbourg.
Si la Grèce est dans cette situation, c'est parce que pendant des décennies, les divers gouvernements successifs ont gouverné de manière clientéliste en soutenant la corruption, en jouant le jeu d'une collusion avec le pouvoir économique et sans contrôler la fraude fiscale des plus riches.
Depuis le retour officiel de la démocratie dans le pays en 1974, Le système politique grec s'est en effet appuyé sur le clientélisme et la corruption fait partie des mœurs. L'impuissance de la justice et la faiblesse de médias, majoritairement aux ordres d'oligarques proches du pouvoir, participent aussi à la forme d'anesthésie générale d'une population qui s'est habituée à la multiplication des scandales, comme celui qui touche Eva Kaili.
We can promote our values, but we don't have the moral right for lectures to get cheap media attention.
Koropizame. En Grèce, comme le prouve le dernier exemple autour de l'eurodéputé actuellement en prison, la corruption, il ne reste pour l'instant qu'à en rire.
Et le dossier du Qatargate n'est pas encore arrivé sur le bureau du parquet européen basé au Luxembourg, car il n'a pas encore été démontré que les finances européennes avaient été lésées dans cette affaire. Le parquet européen, une nouvelle institution opérationnelle depuis 2 ans, à sa tête, la Roumaine Laura Codruța-Kövesi, une dame de fer qui a prouvé dans son pays qu'elle ne faiblissait pas devant les corrompus, Benjamin Ribou.
Depuis sa prise de fonction, elle a lancé des centaines d'enquêtes pour, déjà, des résultats probants avec l'incarcération d'un ministre croate ou encore la condamnation d'un maire slovaque. Laura Codruța-Kövesi, 49 ans, s'est connue, aime travailler dans l'ombre. Elle a construit sa carrière étape par étape à force de labeur et d'opiniâtreté. C'est peu dire que cette bûcheuse, pas star pour un sou, ne partait pas gagnante au départ. Elle a certes hérité de la passion pour le droit de son père, procureur dans une toute petite ville de Transylvanie, mais ambitionnée de devenir elle-même procureur dans les années 90, ce métier de procureur, 28 ans après, elle l'exerce toujours, méticuleusement. Promue procureur général du pays dans la capitale Bucarest en 2006, à un âge précoce, 33 ans, elle impose son style et son flegme pour faire tomber les corrompus, d'ordinaire intouchables. Elle arrive au bon moment. Un an après, la Roumanie intègre l'UE et doit faire des efforts pour combattre la corruption. Pendant une dizaine d'années, c'est elle qui est chargée de faire le ménage, redonnant au passage confiance aux Roumains en la justice de leur pays. À chaque tentative de déstabilisation des institutions judiciaires par des élus qui ont peur qu'elles mettent le nez dans leurs affaires, ils sont des centaines de milliers de gens à sortir dans la rue, souvent en scandant son nom. L'ex-joueuse de basket, vice-championne d'Europe cadette, épinglera des milliers d'hommes politiques et de hauts fonctionnaires roumains en tant que procureur général, puis à la tête du parquet anticorruption roumain, la DNA, qu'elle dirige à partir de 2013. Ennemie jurée du plus puissant parti roumain, le Parti social-démocrate, elle est finalement limogée par celui-ci en 2018. Moins d'un an après son éviction de la DNA, elle devient la première chef du parquet européen, une véritable consécration. The best things in life are free,
but you can give them to the birds and bees. I want money. Et la Hongrie, toujours dans un bras de fer avec l'Union européenne, qui conditionne désormais le versement de ses aides au respect de l'état de droit et à la lutte contre la corruption. Et Budapest a encore de sérieux progrès à faire. Tout d'abord, dans la mise en concurrence lors de l'attribution des marchés publics et des subventions européennes, mais aussi sur la manière dont la justice sanctionne ces abus. Les réformes tardent à venir, alors que les soupçons se multiplient sur les proches du Premier ministre Viktor Orban. À Budapest, Florence Labruyère.
En décembre dernier, quelques jours avant l'examen du cas hongrois par le Conseil européen, le gendre de Viktor Orban a renoncé à une subvention européenne de 375 000 euros. Cet argent devait servir à reboiser des terres qui lui appartiennent. István Tibortz a préféré se passer de cette subvention qui faisait mauvais genre au moment où son beau-père, Viktor Orban, essayait de persuader Bruxelles de l'intégrité de son gouvernement. L'histoire n'est que le sommet émergé de l'iceberg. Depuis le retour au pouvoir de Viktor Orban en 2010, les entreprises de la famille Orban jouissent d'une santé florissante. Le gendre du Premier ministre est à la tête de plusieurs holdings dans l'énergie, l'immobilier, l'hôtellerie, le tourisme. Ces entreprises décrochent systématiquement des contrats publics financés par l'argent de l'État et les fonds européens, même si leurs devis sont plus chers que ceux des concurrents. Autre technique qui a permis au gendre du Premier ministre de faire fortune, l'État lui a vendu à un prix souvent dérisoire des châteaux et des biens immobiliers. István Tiborcz vient par exemple de racheter l'hôtel Gellért, le plus bel établissement de Budapest, situé au bord du Danube. La famille du clan au pouvoir n'est pas la seule à bénéficier de la manne européenne. Il y a aussi M. Mészáros, un ancien plombier, ami d'enfance du Premier ministre. Grâce à l'appui de Viktor Orban, l'ancien plombier est devenu maire de son village, puis il a fondé une entreprise de travaux publics qui a décroché de juteux contrats financés par les fonds européens. Aujourd'hui, M. Mészáros possède plus de 500 entreprises, sa fortune est estimée à 5 milliards d'euros et il est l'homme le plus riche du pays. Mais selon l'opposition hongroise et la presse indépendante, l'ancien plombier ne serait que l'homme de paille de Viktor Orban. Money.
Au Royaume-Uni, c'est un scandale évalué à 29 millions de livres qui ébranle cette fois la chambre haute du Parlement britannique, la chambre des Lords. On retrouve à Londres notre correspondante Marie Billon. Bonjour Marie.
Bonjour Frédéric.
On parle d'un scandale qui a eu lieu en plein Covid, une période très particulière dans l'attribution des marchés publics et qui met en cause une paire du Royaume, Michelle Moon, dont le parcours est très atypique.
Oui, Michelle Moon, ancienne mannequin devenue entrepreneur, elle a fait fortune avec une ligne de lingerie avant d'entrer dans la Chambre des Lords, la chambre haute du Parlement, en tant que représentante du parti conservateur. Elle était connue pour son train de vie luxueux, n'hésitant pas à poster des photos d'elle dans son jet, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est un jet, un appareil acquis en 2021, qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Michelle Moon est accusée d'avoir vanté les mérites de la compagnie PPE MedPro auprès du gouvernement quand il cherchait urgemment à se procurer des équipements de protection pour les soignants vers le début de la pandémie. Elle a toujours dit n'avoir en rien bénéficié des contrats signés par PPE MedPro et le gouvernement. Mais selon The Times, l'époux de Michelle Moon aurait reçu 65 millions de livres sterling de profits de ses contrats en 2020 et transféré rapidement 29 millions de livres à son épouse et trois enfants adultes. Le jet a été acheté quelques mois plus tard, mais la presse précise bien qu'aucun lien ne peut être fait entre l'argent qui aurait été reçu et l'achat. Mais Michelle Moon est sous le coup d'une enquête d'un comité de la Chambre des Lords, puisqu'elle interdit à ses membres de faire du lobbying pour une compagnie dont il ou elle pourrait bénéficier financièrement. Michelle Moon, père du royaume à vie, s'est mise en retrait du Parlement.
Et tout ce scandale s'inscrit dans la période de la pandémie où le gouvernement cherchait à s'équiper au plus vite en masques et combinaisons médicales.
Oui, cette affaire est un exemple du système que le gouvernement a mis en place au début de la pandémie et qui laissait la porte ouverte au copinage, voire à la corruption. On l'a dit, la baronne Moon aurait recommandé au gouvernement de passer commande pour les équipements de protection, masques et tabliers, à la société PPE MedPro. Aujourd'hui, Londres essaie de récupérer l'argent du contrat de 122 millions de livres sterling pour les tabliers qui ont raté l'inspection qualité.
Mais ce scandale va bien au-delà de la figure de la baronne Michelle Moon.
Oui, mais c'est un bon point de départ pour comprendre le problème. Avant la pandémie, notamment en raison de la politique d'austérité menée par le gouvernement conservateur depuis 2010, la réserve d'équipements de protection pour les soignants était minime. Le stock n'était pas pensé pour faire face à une pandémie. Il a donc fallu se procurer des équipements très rapidement. Le gouvernement a ainsi instauré une VIP lane, une voie rapide, une voie royale pour accélérer le processus. Les conditions liées aux appels d'offres étaient suspendues, les différentes étapes de contrôle pouvaient être supprimées et selon le média d'investigation Byline Times, 98,9% des contrats Covid en termes de valeur, soit 17,8 milliards de livres sterling, ont été accordés sans aucune forme de compétition.
Le problème, Marie, c'est que presque tous les bénéficiaires de ces contrats sont des proches du Parti conservateur.
Alors, tout cela fait partie de l'enquête publique sur le Covid-19, mais on n'attend pas les conclusions avant fin 2025. D'ici là, oui, on regarde de près ce qui s'est passé et si les soupçons de copinage sont étoffés. Byline Times et l'organisme de Citizens ont calculé qu'un milliard de livres sterling de contrats Covid a été accordé à des donateurs du Parti conservateur et 2 milliards à des proches du parti. Les sociétés qui ont décroché des contrats auraient donné 615 000 livres au parti de manière directe ou indirecte selon Byline. Mais il n'y a pas que les compagnies comme PPE MedPro qui ont eu des contrats juteux selon Byline à travers cette VIP lane. Une compagnie faisant des moquettes pour hôtels, un dessinateur de mode américain ont obtenu des contrats, ainsi qu'une compagnie utilisant le travail forcé des Ouïghours en Chine.
Merci Marie Billon, à Londres. La communication politique, le nerf de la guerre, y compris sur les réseaux sociaux. Désormais, tous les hommes et toutes les femmes politiques s'adressent à leurs électeurs cibles à l'aide de petites vidéos, humoristiques ou pas, et avec plus ou moins de talent et de bonheur. C'est l'œil européen cette semaine de Franceline Beretti.
En Allemagne, on fête la Saint-Sylvestre avec beaucoup de feux d'artifice. Le 31 décembre dernier, la ministre de la Défense, Christine Lambrecht, s'est dit que cela ferait un bon cadre à une vidéo pour faire un bilan de l'année.
2022, quelle année ça a été ? Avec des défis immenses et une guerre qui fait rage au cœur de l'Europe. Ça a été pour moi l'occasion de nombreuses expériences et j'ai pu faire beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidables. Pour cela, je vous dis un grand merci.
C'est le Kremlin qu'il faut remercier. Le propos de Christine Lambrecht est extrêmement déplacé et en plus, pour ajouter au malaise, le bruit des pétards et des feux d'artifice fait penser aux missiles que reçoivent les Ukrainiens sur la tête. Ce ratage intégral s'ajoutait à une série de maladresses et la chef de la défense allemande a dû démissionner. Mais ce qui est étonnant, c'est que la ministre a des conseillers, des gens payés pour penser, contrôler, encadrer ses déclarations. Ils devaient être en congé ce soir-là. Peut-être même ont-ils fêté la nouvelle année avec les responsables de la communication du Parti socialiste en France, ceux qui ont pondu un clip bien à côté de la plaque pour 2023.
Voici Marie. Marie habite en colocation avec ses amis. Elle est jeune salariée. Il est temps de rallumer le chauffage, car il commence à faire froid.
Alors je ne sais pas ce que fait Marie comme métier, mais c'est sûr, vu comme elle surjoue grotesquement le mécontentement, elle n'est pas comédienne. Et surtout, pour une jeune salariée, son salon haussmannien de 15 mètres carrés laisse penser qu'elle n'est pas au SMIC. Mais c'est pas elle, ma préférée. Non, le meilleur, c'est lui.
Ça, c'est Alexandre. Il aime bien faire les courses en bas de chez lui, dans son épicerie. Il connaît bien son quartier. Il adore acheter des produits frais.
Quel bobo.
Tous les vendredis, c'est pareil. Il prépare sa soupe et il invite ses amis.
Et là, Alexandre achète un poireau, un seul, pour une soupe. L'inflation, il connaît puisqu'il paye son pauvre poireau avec un billet de 5 euros. Et ça ne suffit pas, à cause du gouvernement, bien sûr. Mais qui pense que ce genre de clip peut fonctionner ? Le PS l'a d'ailleurs supprimé, vite fait, et il l'a remplacé par une vidéo de son chef, Olivier Faure, qui joue au Monopoly contre un faux Emmanuel Macron. Au Macron-Poly. Eh oui. Eh bien, je vous assure que c'est plus réussi que Marie-Alexandre et le poireau. Parce que ça correspond au code actuel des réseaux sociaux. Une vidéo sans dialogue, un montage serré et quelques blagues sur l'actualité. En Italie, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, tente un nouveau truc pour communiquer.
J'ai toujours un carnet avec moi parce que j'écris tout, ce que je dois faire, ce dont je dois me souvenir, ce que je pense. J'écris des réponses à des questions que je lis, les contenus de mes réflexions.
Un carnet, quoi. Dans le mien, il y a aussi la liste des courses.
J'ai décidé d'ouvrir ce carnet dans lequel je prends des notes dans un rendez-vous que je voudrais hebdomadaire pour vous raconter le travail qui a été accompli durant la semaine parce que je n'ai aucun problème à répondre sur tous les sujets.
Ça m'a intrigué ce rendez-vous de Giorgia Meloni avec les Italiens et j'avais vraiment envie de voir l'intérieur de son carnet moche. Oui, parce qu'il est noir, avec écrit Giorgia en lettres dorées avec une grosse étoile à la fin. On dirait qu'elle entre en CE1. Sauf que la chef du gouvernement italien n'a pas montré une seule page de son carnet. En fait, elle fait des vidéos très classiques avec des graphiques intégrés, des photos, des extraits vidéo. Ça n'a rien de personnel ou d'intime comme un vrai carnet. Et pourtant, c'est ce qu'elle tente de créer comme lien. Eh bien, c'est raté. C'est vrai que l'évolution hyper rapide de l'environnement numérique rend difficile la maîtrise des usages. Les politiques ont à peu près compris comment se servir de Facebook et de Twitter. Et voilà qu'ils doivent se mettre à TikTok et à Twitch avec d'autres codes, tout en œuvrant pour le bien commun. Enfin, on l'espère.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Abonnez-vous en podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. À demain.